Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
En 1960, du côté de West Orange, aux États-Unis, la grande famille Cullen, composée des parents Edmund et Florence, ainsi que de leurs 7 enfants, s'apprête à accueillir le dernier de la famille, Charles. Ce 22 février est donc une date heureuse, bien que la naissance du petit Charles ne fût pas souhaitée par ses parents, tous deux ouvriers et éprouvant des difficultés afin de subvenir aux besoins de cette famille nombreuse. Une difficulté qui s'accentuera le 17 septembre 1960, à peine 7 mois après la naissance de l'enfant, lorsque Edmund, le père, décédera. Désormais, la charge familiale repose exclusivement sur les épaules de Florence, la mère. La tâche n'est pas facile, certains des enfants sont déjà adultes, mais aussi en proie à des problèmes de toxicomanie. Parmi les sœurs, il y en a qui tombent enceintes. Étant seules, elles reviennent à la maison pour profiter d'un toit et d'une aide financière. Florence porte réellement sur ses épaules une famille dont la gestion pour une seule personne relève de l'exploit. Ses seuls revenus sont ceux de son emploi de couturière. Étant insuffisant, elle se rend régulièrement à l'église demandant la charité. Malgré tous ses efforts, la vie de famille est chaotique. Charles, quant à lui, n'échappe pas aux rudes conditions de vie. L'école, qui pourrait être perçue comme l'occasion de s'évader, au moins temporairement, d'une ambiance nauséabonde, est également un endroit oppressant. Charlie est malmené et harcelé régulièrement. Lorsqu'il rentre à la maison, il est maltraité par ses frères et sœurs. L'esprit du garçon est si tourmenté qu'il finira par envisager de mettre fin à une vie qu'il ne supporte déjà plus à seulement 9 ans. Un jour, à bout de force, il passe à l'acte. Tandis qu'il accompagne sa mère à l'église, il subtilise des produits chimiques, puis, une fois de retour à la maison, il les ingère avec un grand verre de lait. Charles tombera violemment malade et ne perdra pas la vie. Plusieurs années s'écoulent sans que Charles ne tente à nouveau d'en finir avec la vie qui portera un nouveau coup dur au jeune homme, désormais âgé de 17 ans. Le 6 décembre 1977, Florence Cullen est victime d'un accident de voiture. Elle est transportée à l'hôpital dans un état si grave que son pronostic vital est engagé. Elle mourra quelques instants plus tard. Lorsque Charles est informé de l'accident que vient de connaître sa mère, il accourt en urgence afin de prendre des nouvelles. À son arrivée, le décès de sa mère lui est annoncé. La dépouille de Florence a été évacuée et déjà incinérée sans que son fils puisse passer un dernier moment avec elle. Cet épisode traumatisant dans la vie de Charles va le conduire sur la pente glissante de la dépression. Ses pensées noires ressurgissent, le plongeant dans un état si profond de détresse qu'il tentera une nouvelle fois d'en finir avec la vie. Sauvé de justesse, il est cette fois-ci hospitalisé et suivi par un psychiatre. Charles ne se confiera cependant jamais au médecin, conduisant ce dernier à abandonner le suivi entamé. Voici donc le jeune homme, à présent âgé de 18 ans. Sans réel repère et sans avenir certain, suite à sa décision de quitter le lycée. Charles doit donc réaliser des choix cruciaux. L'un d'entre eux sera de servir dans l'armée. Il s'engage au sein de la marine américaine, mais doit tout de même se soumettre à une série de tests physiques et psychologiques afin de s'assurer qu'il est apte à servir ce corps de l'armée. Malgré son terrible passé, c'est avec succès qu'il passe ses différents examens, évitant une potentielle révocation, notamment du fait d'un état mental fragile. Ceci amène Charles à servir au sein d'un sous-marin en tant que technicien électronique. Le poste est responsabilisant, puisqu'il est notamment chargé des missiles nucléaires dont le bâtiment de guerre est équipé. Bien que l'armée fût la solution à une situation balbutiante dans la vie de Charles, elle n'en reste pas moins une entité au code spécifique, d'une rigidité telle que même les caractères les plus trempés finissent par s'y plier. Et le jeune homme a du mal avec la discipline de fer imposée au sein de la marine. Être le subordonné et recevoir continuellement des directives est un environnement qu'il n'apprécie guère. Simplement, au sein de l'armée, celui qui ne respecte pas fait face à la sanction, ce que le jeune homme connaîtra régulièrement. L'un des incidents l'impliquant sera plus notable que les autres. Un jour, un officier entre dans la salle des commandes permettant d'activer les missiles nucléaires présents sur le bâtiment. Il aperçoit un homme en blouse blanche portant un masque chirurgical et des gants positionnés devant la station de lancement des missiles. Aussitôt, l'officier écarte l'homme de l'endroit et découvre qu'il s'agit du technicien Charles Cullen. Questionné sur son attitude étrange, il ne donnera aucune explication à son supérieur ni à qui que ce soit d'autre. Sans délai, Charles est évacué du sous-marin et rétrogradé à un poste de concierge sur la terre ferme, l'empêchant ainsi d'être à nouveau un danger potentiel en mer. Durant cette période, sa consommation d'alcool monte en flèche. Une véritable addiction née chez lui, si bien que lorsque plus aucune goutte de breuvage alcoolisé ne se trouve dans les parages, il se rabat sur la listerine, une solution pour réaliser des bains de bouche comportant un faible taux d'alcool. Au cours de l'année 1984, Charles est envoyé à l'infirmerie militaire après avoir ingurgité une forte dose de liquide de nettoyage. Le département psychiatrique suivra l'homme, mais surtout évaluera tout au long de son séjour son état psychologique. Le résultat de ce suivi débouchera sur une révocation de la marine américaine de Charles Cullen. Toujours en 1984, il va rebondir malgré ses déboires avec l'armée et s'inscrire à une école d'infirmières à Montclair dans le New Jersey où il sera le seul homme de sa promotion. Un peu contre toute attente, ses études se déroulent bien et les problèmes rencontrés lors de son passage dans la marine américaine semblent appartenir au passé. Pour subvenir à ses besoins, il doit tout de même trouver un emploi d'appoint. Parmi ses nombreux boulots étudiants, il y aura celui de serveur au sein d'un restaurant où il rencontrera Adrienne Taub, une jeune femme qui, elle aussi, profite d'un travail alimentaire au sein du restaurant pour rembourser son emprunt étudiant. Suite à leur rencontre, une véritable alchimie entre les deux émerge. Ils s'entendent extrêmement bien et à peine 6 mois après leur premier encart, les voici fiancés. Tous ces événements s'étant déroulés rapidement, Charles n'avait fait la connaissance de presque aucun membre de la famille d'Adrienne sauf un de ses frères nommé James. La vie de Charles apparaît prendre une direction inconnue pour lui jusqu'à présent, celle du bonheur. En plus des récentes fiançailles, voici qu'il est diplômé de l'école d'infirmière et obtient son premier poste au sein d'un hôpital, celui du Saint-Barnabas. Il est affecté au difficile service des grands brûlés qui sollicite de fortes capacités mentales afin de faire face non seulement à l'état physique compliqué des patients, mais également aux soins particuliers qui doivent leur être apportés. Quoi qu'il en soit, Charles est prêt à relever le défi. Et à peine une semaine après ses débuts, un nouveau malheur survient. Le frère d'Adrienne, James, meurt des suites d'une overdose de drogue sans qu'il soit possible d'établir s'il s'agit d'un accident ou bien d'une volonté de ce dernier de mettre fin à ses jours. Adrienne est affectée par cette terrible nouvelle, mais réussit à surmonter l'épreuve. En fin d'année 1987, le couple achète et emménage dans une maison à Phillipsburg. Adrienne parvient à trouver un nouvel emploi, dont les horaires sont de jour, tandis que Charles travaille principalement de nuit. Ceci éteint légèrement la flamme entre les deux, mais ne les empêche pas, en 1988, d'avoir leur premier enfant, une petite fille. Bien que l'heureux événement rapproche un temps Charles et Adrienne, l'emploi de l'homme semble problématique et faire changer son comportement. Certes, l'emploi est de nuit, mais les conditions de travail auprès des personnes qui s'apprêtent, pour beaucoup, à perdre la vie affectent mentalement Charles, disposant déjà d'un état mental friable. À cet instant, Charles Cullen bascule profondément dans la noirceur la plus totale et devient l'ange de la mort. À l'entame de l'année 1988, Charles Cullen se rend dans la chambre d'un patient atteint du sida, mais non concerné par le service des grands brûlés. Cette personne semble condamnée, mais l'infirmier va s'assurer de son décès en lui injectant une dose mortelle de médicaments. Le patient décédera d'une overdose. Quelque temps plus tard, le 11 juin 1988, John Yengo, un juge du coin, âgé de 72 ans, est admis au service des grands brûlés suite à un grave coup de soleil. A priori, à aucun moment, son pronostic vital n'est engagé. Mais ça, c'est sans compter l'intervention de Charles, qui injectera en grande quantité de la lidocaïne, un anesthésique, dans le corps de l'homme. John Yengo mourra suite à cette injection. Le personnel de l'hôpital pense d'abord qu'il a succombé d'une maladie rare de la peau. Rapidement, des employés constatent que le comportement de Charles est différent depuis cet incident. Il semble, de surcroît, qu'il soit ivre en plein service. Mais le département des grands brûlés, engendrant des dégâts réguliers sur la santé mentale des salariés, les collègues de Charles ne sont pas entièrement surpris de son attitude. Depuis ces événements, 3 années se sont écoulées, et nous voici au début de l'année 1991, lorsqu'une infirmière découvre une poche d'intraveineuse si pleine que son contenu en fuit. Et comme il apparaît que cette poche a été utilisée, l'infirmière décide de la faire analyser afin d'en connaître le contenu. Il découle des résultats que le liquide est composé de sérum physiologique ainsi que d'héparine. Jusque-là, rien d'anormal, sauf qu'un troisième élément apparaît dans ses analyses, de l'insuline. Or, en aucun cas, une poche de cette nature aurait dû en contenir. 3 jours après la découverte, le 14 février 1991, Anna Byers, une patiente du service cardiologique, est préparée pour un pontage du muscle cardiaque. Les infirmières passent du temps avec Anna pour la rassurer sur le déroulé de l'opération et prendre soin d'elle. 24 heures avant l'intervention, et comme la procédure le prévoit, une perfusion contenant de l'héparine ainsi que du liquide physiologique est mise en place afin d'éliminer les possibles caillots de sang en agissant comme un anticoagulant. Il s'agit d'un procédé classique, en théorie sans risque. Pourtant, 30 minutes après l'installation de la perfusion, l'état de santé d'Anna se détériore fortement. Elle souffre de nausées d'abord, puis est prise de sueur froide avant de convulser. Étant incapable de détecter l'origine de cette violente réaction de leur patient, les médecins ordonnent des analyses rapides dans le but de stabiliser l'état de la femme. Les résultats sont sans appel. Le taux d'insuline d'Anna Byers est à un niveau si élevé que sa vie est en jeu. En apprenant ceci, les infirmières administrent aussitôt une solution permettant de neutraliser l'insuline, faire redescendre la glycémie et finalement sauve la patiente. Plus tard dans la journée, tout va mieux pour la femme, comme si son état ne s'était jamais dégradé. Elle est donc remise sous perfusion, mais des symptômes similaires apparaissent. Immédiatement, les perfusions sont retirées et la même opération de sauvetage lancée, puisque le taux d'insuline a explosé une seconde fois. Le lendemain, un autre patient, Fred Belf, connaît exactement les mêmes problèmes de santé. Et la corrélation est évidente, ce sont les perfusions qui causent la montée d'insuline dans l'organisme des patients. Pour s'en assurer, les poches contenant le liquide sont envoyées en laboratoire. Effectivement, le taux d'insuline présent dans la solution est énorme. Les analyses permettent aussi de détecter des petites brèches dans les poches qui pourraient avoir été causées par des aiguilles très fines. D'autres poches dans la salle d'approvisionnement sont vérifiées et des découvertes similaires sont faites. De l'insuline est présente là où elle ne devrait pas. Par conséquent, la sécurité de l'hôpital, une fois prévenue, lance une enquête sur l'auteur de ces empoisonnements. Toutes les personnes ayant accès aux poches sont interrogées, en grande partie des infirmières, des infirmiers et des médecins. Tous coopèrent, sauf un, Charles Cullen, qui refuse de s'entretenir avec les personnes chargées de résoudre ce mystère. Son comportement suspect force la curiosité des enquêteurs, qui comparent les données relatives à la mortalité des patients au sein de l'hôpital avant et après l'embauche de Charles. Les résultats font froid dans le dos, puisque l'entrée dans les effectifs de l'hôpital de Charles corrobore avec un taux de mortalité qui augmente en flèche parmi les patients. Malgré cette coïncidence, qui ne semble pas réellement en être une, cela ne prouve en rien l'implication de l'infirmier dans les décès des patients. Il tente donc de le prendre sur le fait, notamment en plaçant discrètement des caméras de surveillance au sein de la salle de stockage des poches. Malheureusement, cette tentative sera un coup d'épée dans l'eau. Non seulement ils ne sont pas parvenus à capturer des images de Charles manipulant les poches, mais en plus, deux patients supplémentaires sont touchés par des taux d'insuline qui explosent. Bien que la direction de l'hôpital soit au fait de ces actes et de leur potentiel auteur, elle décide de ne pas dévoiler cette affaire dans une crainte financière d'abord et afin d'éviter un scandale ensuite. Rappelons qu'aux États-Unis, les établissements médicaux étant privés, ils sont gérés tels des entreprises. On en pense ce que l'on veut, mais c'est un fait qui engendre ce genre de réaction pour sauvegarder l'économie de l'hôpital, au détriment parfois de la santé et de la vérité. Quoi qu'il en soit, à partir d'octobre 1991, les cas d'empoisonnement à l'insuline diminuent drastiquement, ainsi que le taux de mortalité. L'hôpital a-t-il réussi à neutraliser Charles ? Eh bien pas du tout. En réalité, l'homme a simplement décidé de démissionner de son poste d'infirmier. Il est donc légitime de penser à cet instant que la direction de l'hôpital mettra tout en œuvre dans le but d'empêcher l'infirmier d'exercer à nouveau. Pourtant, nous sommes très loin de cette réalité, l'hôpital ne prenant aucune mesure sur ce plan. En vue d'éviter une publicité aux conséquences néfastes pour l'établissement, la décision est prise de ne pas soumettre aux autorités compétentes les événements survenus. Pire, tous les empoisonnements ainsi que les tentatives sont classés comme des incidents médicaux, un moyen pour les dirigeants de l'hôpital d'étouffer l'affaire. Ceci aura de lourdes conséquences. Toujours en 1991, deux semaines plus tard, voici Charles en train de postuler à l'hôpital Saint-Luc, se situant à Phillipsburg dans le New Jersey. Ce dernier n'hésite nullement à mentionner comme référence l'établissement précédent pour lequel il travaillait. Et puisqu'aucun doute n'existe quant à la candidature de Charles Cullen, celui-ci indiquant qu'il souhaite se rapprocher de son domicile, les dirigeants de l'hôpital Saint-Luc réalisent l'erreur d'embaucher l'ange de la mort. Quoi qu'il en soit, pour Charles, ce nouveau poste est une véritable aubaine. D'une part, il quitte le service des grands brûlés particulièrement difficile, et d'autre part, il bénéficie désormais d'horaires de jour. Un point important, puisque ceci mettra un terme à l'éloignement que son couple connaissait depuis plusieurs mois. Si bien qu'Adrienne et Charles auront une deuxième fille ensemble. Cependant, cela ne dure qu'un temps, Charles retombant dans ses anciens vices, et notamment celui de l'alcool. Régulièrement en état d'ébriété, le degré de violence de Charles à l'égard d'Adrienne augmente un peu plus chaque jour, faisant définitivement craquer la femme qui requiert le divorce en 1992. Une procédure véritablement chaotique et mal vécue par l'homme qui agresse physiquement sa femme lorsque cette dernière lui présente les papiers à remplir afin d'officialiser la séparation. Si bien qu'Adrienne contacte la police pour rapporter les coups dont elle a été victime. Elle exprime également aux policiers ses doutes sur l'activité professionnelle de son mari et les informe des enquêtes menées à son encontre lorsqu'il occupait son poste précédent sans pour autant être capable d'en définir la nature. Finalement, la situation se règle lorsque Charles accepte le divorce et quitte le domicile, habitant désormais dans son propre appartement. L'homme réoriente rapidement son intérêt sur une autre personne, portant son dévolu sur l'une de ses nouvelles collègues, Michelle Tomlinson. Cette dernière, ayant accepté un premier rendez-vous romantique avec Charles, ne savait pas, à cet instant, qu'elle avait commis une grave erreur. Charles tombe amoureux de...
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Sa collègue instantanément après ce dîner et se lance dans une lourde campagne de harcèlement. Il lui apporte des cadeaux quotidiennement, se rend à l'hôpital lors de ses jours de repos pour la voir, lui offre une bague en guise d'engagement et lui exprime son amour. Tout ceci dans un laps de temps bien trop court pour être appréciable par la jeune femme qui installe une distance avec Charles. L'homme téléphone donc sans cesse chez elle, un volume d'appels si déroutant que la jeune femme finit par contacter son ex-petit ami afin qu'il intervienne, ce qu'il fait en mettant en garde Charles. Malheureusement, ceci n'aura pas l'effet escompté, puisque l'homme considère à ce moment que si Michelle ne souhaite plus le voir, c'est certainement parce qu'elle ne va pas bien et qu'elle subit une forme de dépression. Il se rend désormais directement chez elle pour l'observer. Lorsqu'il aperçoit de la lumière dans le domicile ou la voiture garée à l'entrée, il fait immédiatement demi-tour, pensant qu'il risque de manquer son appel. Simplement, à chaque fois qu'il fait ça, il constate qu'il n'a pas de message sur son répondeur et qu'elle ne tente aucunement de le joindre. Mais pour Charles, c'est un signe démontrant les problèmes mentaux de cette femme. Il est impossible pour lui de comprendre les raisons pour lesquelles elle ne le rappelle pas. Quelqu'un sain d'esprit n'agirait pas ainsi. Il se rend donc à nouveau à son domicile, cette fois-ci, brise un carreau, puis pénètre dans la chambre de Michelle qui dort, l'observant. Il reste un moment devant elle, mais ne fait rien, puis décide de s'en aller. Le lendemain, Charles continue la campagne de harcèlement et obtient une réponse à l'un de ses nombreux appels. Au cours de la discussion, il reconnaît qu'il est la personne ayant brisé la vitre de la maison et qu'il s'est tenu quelques minutes debout devant le lit de la femme lorsqu'elle dormait. Le jour suivant, la police entre dans la danse, puisque la jeune femme a, aussitôt après l'inquiétant appel, expliqué la situation à des agents. Charles est convoqué au poste en vue de justifier son comportement hautement étrange. Il accepte la convocation, mais avant de prendre la route, ingère une forte dose de médicaments. Son plan est de s'évanouir au poste de police dans le but de se faire passer pour une victime. Simplement, les officiers de police ne le placent pas en garde à vue. Ils le questionnent uniquement en prenant ses empreintes digitales avant de le libérer. Il est donc monté dans son véhicule pour rentrer chez lui. Cependant, les effets des médicaments apparaissent et le voici sur le point de perdre connaissance. Semi-conscient, il parvient à joindre les secours qui le prennent en charge. Il est placé dans un service psychiatrique et son rétablissement est rapide. Tandis qu'il se trouve encore dans l'établissement de santé, son employeur l'appelle. On pourrait penser que son comportement aurait conduit l'hôpital où il travaille à envisager une procédure de licenciement. Mais pas du tout, il lui est simplement demandé sa date de reprise. En parallèle, des procédures sont lancées à l'encontre de Charles. Il est condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, accompagné d'une ordonnance restrictive pour son attitude à l'égard de Michelle Tomlinson. Dans sa procédure de divorce avec Adrienne, il perd la garde des enfants qui revient à la mère. Une ordonnance restrictive est aussi émise contre lui, l'interdisant d'approcher son ex-femme désormais. Des comportements dangereux, qui plus est sanctionnés par des décisions de justice, qui ne remettent pas en cause sa place au sein de l'hôpital Saint-Luc. Le pire reste à venir. 2 ans plus tard, le 1er septembre 1993, Helen Dean, une femme âgée de 91 ans, est en convalescence suite à une intervention pour la sauver d'un cancer du sein. Son fils Larry est constamment au chevet de son lit depuis son entrée à l'hôpital. Helen ne doit passer plus qu'une nuit avant de rentrer chez elle. Mais voici que ce jour, un infirmier entre dans sa chambre. Il demande à Larry de quitter la pièce sans trop savoir pourquoi il s'exécute. Quelques minutes plus tard, il peut retourner auprès de sa mère. Il constate qu'une injection lui a été faite à l'intérieur de la cuisse. Voici enfin le jour de sortie pour Helen. Une bonne nouvelle, enfin en théorie, puisque la femme ne se sent pas bien. Son cœur s'emballe, elle transpire à grosses gouttes et se sent totalement vidée de ses forces. Le cœur d'Helen s'arrête de battre. Une opération d'urgence pour tenter de sauver la femme est lancée. Sans succès, Helen décède. Cette fin tragique est incohérente pour Larry. Sa mère avait réussi à se remettre de l'opération et jusqu'au passage de l'infirmier, tout allait bien. Une autopsie est donc réalisée. Larry demande aussi à ce que l'identité de l'infirmier soit trouvée, et elle l'est. La personne ayant injecté le mystérieux produit à Helen est bien entendu Charles Cullen. Le bureau du procureur est informé de l'incident et des doutes planant au-dessus de Charles du fait de son comportement. Par conséquent, ce dernier est interrogé. Des semaines durant, il est soumis à de nombreuses questions en provenance des officiers de police comme du personnel de sécurité de l'hôpital. Dans les deux cas, Charles reste impassible, maintenant son innocence. Il passera au détecteur de mensonges et le réussira, ce qui est une première victoire pour lui, bien que la fiabilité de ce test n'est que relative. Par contre, les résultats toxicologiques émanant de l'autopsie réalisée sur le corps d'Helen ne mentiront pas. Contre toute attente, ces résultats dédouanent Charles de toute implication dans la mort de la femme. Aucune substance suspecte n'a été retrouvée dans les analyses. Malgré des recherches, parmi une liste de plus de 100 produits chimiques qui auraient pu causer une telle réaction chez Helen, permettant de conclure à une mort naturelle. Pourtant, c'est bien Charles Cullen qui a mis fin à la vie d'Helen Dean en utilisant de la digoxine, un agent utilisé notamment en cas d'insuffisance cardiaque et qui, mal dosé, peut être mortel. Malheureusement, l'enquête ne fera pas la lumière sur ce point, Charles étant de fait réintégré. Plus tard, 2 patients supplémentaires perdront la vie suite à des empoisonnements liés à la digoxine de l'horrible infirmier qui ne sera jamais inquiété pour ces cas. L'hôpital Saint-Luc sera cependant débarrassé de l'ange de la mort lorsque celui-ci décide de ne plus se présenter sur son lieu de travail. Il souhaite changer, présentant sa candidature à un nouvel établissement médical, celui du Hunterdon Medical Center à Flemington, toujours dans le New Jersey. Une nouvelle fois, il ne rencontrera aucune difficulté lors de sa procédure de recrutement, dans la mesure où son dernier employeur conservera interne l'enquête menée, ne dévoilant pas non plus son séjour au sein d'un service psychiatrique. Quoi qu'il en soit, Charles est embauché. Tandis que l'on pourrait penser qu'il soit tenté de récidiver ses empoisonnements, ce ne sera pas le cas. Durant 2 ans, il sera un véritable employé modèle, adulé par tous ses collègues ainsi que les patients qu'il a sous sa responsabilité. L'ange de la mort ne semble plus faire partie de la personnalité de Charles Cullen. La personne qui pense une telle chose se fourvoie complètement. L'ange de la mort ne disparaît jamais. Il dort simplement et ne demande qu'à être réveillé. En novembre 1995, Charles vit mal la fin d'une relation amoureuse qu'il avait entamée avec une collègue depuis quelques mois. Cet événement fait remonter les plus sombres pulsions de l'infirmier qui change totalement lors de sa 3e année de présence à l'hôpital. Il est à présent extrêmement horripilant avec les gens qui l'entourent. Il est méconnaissable dans l'attitude et ses performances professionnelles en pâtissent. Il commet de nombreuses erreurs médicales, il donne les mauvais médicaments, certains n'étant même pas prescrits par les médecins, un véritable chaos médical. Mais ces erreurs sont en réalité intentionnelles. Au début de l'année 1996, des patients meurent. Ils sont au nombre de 5 et une enquête démarre. Un schéma bien connu dorénavant par Charles, qui sait également que l'utilisation de digoxine ne sera certainement pas détectée. Ce qui est effectivement le cas, des personnes décèdent de causes qui sont inconnues. Les dirigeants de l'hôpital perdent patience avec toutes ces erreurs commises par l'infirmier, opposant à ce dernier la possibilité d'un licenciement. La direction de l'établissement soupçonne Charles d'être impliqué dans la mort des patients. Et comme précédemment, ils savent que si le doute est rendu public, les proches des victimes solliciteront un éclaircissement. Dans le cas où les meurtres seraient avérés, il y aurait une pluie de poursuites impliquant l'hôpital. Mais le cycle se répète. Charles quitte de lui-même l'établissement qui est soulagé de voir le problème s'éloigner avec les secrets des décès. Le processus recommence donc lorsqu'il est engagé au sein du Morristown Memorial Hospital, réputé pour ses services de qualité en matière médicale. Cette fois-ci cependant, au moment du recrutement, les anciens employeurs de Charles sont tous questionnés à propos de ses compétences, son attitude, ses capacités de manière générale. Tous feront les louanges de l'homme. Seulement, moins d'un an après son entrée dans les effectifs et un décès plus tard, Charles est licencié pour insuffisance professionnelle. Outre son comportement détestable, il n'administre pas les bons médicaments. Un jour, il omet une injection d'héparine à destination d'un patient devant subir une opération cardiaque conduisant au décès du pauvre homme. Durant plusieurs mois, Charles Cullen n'a plus d'activité professionnelle. Dans l'état du New Jersey, il devient quasiment impossible pour lui de trouver un nouveau poste. Contraint financièrement, il change d'état et prend la direction de la Pennsylvanie. Là-bas, il repart de zéro, ne traînant aucune casserole pour se remettre à tuer. Le 10 février 1998, il intègre donc l'hôpital d'Allentown qui, là encore, a vérifié par son service des ressources humaines les antécédents de son futur employé, sans découvrir le moindre problème. Le loup est dans la bergerie. Francis Henry, âgé de 83 ans, entre à l'hôpital à la suite d'un accident de voiture ayant causé des dommages à son dos. Dans la nuit du 5 au 6 mai, son état se dégrade fortement et les symptômes qu'il présente n'ont aucun rapport avec les dégâts subis lors de l'accident. Deux semaines plus tard, Francis Henry décède. Les analyses toxicologiques montrent la présence d'un taux mortel d'insuline. Bien sûr, aucune prescription d'insuline n'avait été faite. Il s'agissait d'un coup de l'ange de la mort. Le cycle reprend. Charles Cullen est évacué de l'hôpital qui étouffe les affaires, laissant ce tueur en série sillonner les différents établissements de Pennsylvanie et causer de nombreux décès. En tout cas, jusqu'à son embauche au sein de l'hôpital Saint-Luc de Bethléem. En 2000, l'hôpital Saint-Luc de Bethléem est l'un des meilleurs établissements médicaux des États-Unis, étant présent parmi les 100 premiers selon un classement établi à cette période. Charles Cullen est affecté en tant qu'infirmier dans le service cardiologie de cet hôpital prestigieux. Approximativement 2 ans durant, il est un employé modèle faisant honneur à la réputation du service qui l'emploie. En 2002, une autre infirmière du département découvre dans une poubelle destinée aux objets tranchants des boîtes vides de médicaments. Parmi les médicaments apparemment inoffensifs, destinés à normaliser l'arythmie cardiaque, des emballages de vécuronium, un médicament qui paralyse le système nerveux, ont également été retrouvés. Ce médicament est rarement utilisé et seulement en petite quantité. Si bien que l'énorme quantité d'emballages vides a obligé les autorités et les autres infirmières à agir. Le mystère est levé lorsque Charles est pris en flagrant délit d'utilisation de ces dangereux médicaments. Une rencontre avec l'ange de la mort et l'avocat de l'hôpital est organisée. Celui-ci propose un arrangement. Dans le cas d'un licenciement d'un commun accord, l'hôpital lui offre une référence neutre et lui assure que l'incident ne serait pas inscrit dans son dossier. Cullen accepte, puis est escorté hors du bâtiment par la sécurité le même jour, le 5 juin 2002. Cependant, l'affaire ne s'arrête pas là. 8 infirmières qui travaillaient avec lui décident d'approfondir l'enquête. Elles sont arrivées à la conclusion choquante que 2/3 des patients sont morts pendant le temps de présence de Charles. Les infirmières soumettent leur découverte au ministère public qui prend l'affaire. Un médecin légiste nommé par la police analyse les antécédents des 69 patients décédés pendant plusieurs mois sans que quoi que ce soit de suspect n'émane de l'analyse. L'enquête est donc simplement abandonnée. La direction de ce dernier établissement ne sera pas inactive pour autant et transmettra à l'ordre des infirmiers le comportement de Charles ainsi que les éléments glanés par les 8 infirmières. Une nouvelle enquête est donc ouverte par l'ordre, mais comme à chaque fois, elle est abandonnée faute de preuves. Entre-temps, le tueur en série est retourné dans le New Jersey avec un poste au sein du Somerset Medical Center et il sera malheureusement extrêmement prolifique. En un an, il a tué au moins 8 patients avec des overdoses de norépinéphrine, de sodium, de protoxyde d'azote, d'insuline et bien sûr de digoxine. Le personnel de l'établissement commence à se méfier de la mort des patients. Le 7 juin 2003, Florian Gall, un ecclésiastique de 68 ans, est victime de l'ange de la mort. Une récente analyse de sang montre que son taux de digoxine était 5 fois supérieur à la normale. Le patient numéro 4, c'est ainsi que les autorités de l'hôpital de Somerset nomment le révérend Florian Gall aux fins de l'enquête interne. Il est le 4e patient à présenter des valeurs de digoxine aussi significativement élevées dans son sang. 3 d'entre eux sont morts. En juillet 2003, l'hôpital demande l'aide du centre antipoison local, simplement pour savoir si de telles valeurs de digoxine chez les patients pouvaient être une coïncidence. La réponse fait froid dans le dos. Vous avez un meurtrier chez vous. Ceci force les dirigeants de l'hôpital à communiquer ces informations à la police. Ils ne souhaitaient pas faire une telle chose, mais les membres du centre antipoison les ont menacés de le faire à leur place. En octobre 2003, le Somerset Medical Center partage aux autorités ses soupçons concernant Charles Cullen. Les enquêteurs consultent son dossier pour chaque emploi, constatant qu'il n'avait pas commis d'acte répréhensible. Il remarque aussi que certains dossiers ont été détruits. Il mène donc des interrogatoires au sein des anciens établissements de l'infirmier. Nombre de ses ex-collègues affirment que Charles avait tué des patients par overdose de digoxine. Pendant ce temps, Charles est licencié de l'hôpital du Somerset, qui remet également le dossier de son salarié à la police. Le 15 décembre 2003, Charles Cullen est placé en état d'arrestation, refusant néanmoins de parler aux policiers. Malgré les différentes stratégies d'interrogatoire employées, il reste de marbre. Les officiers doivent ruser s'ils souhaitent obtenir des aveux capitaux afin de faire tomber un tueur en série particulièrement prolifique. Ils amènent au commissariat une femme qui s'était liée d'amitié avec le monstre, Amy Ridgway. Elle doit délivrer un discours bien précis. Dans le cas où il n'avouerait pas les crimes pour les endosser seul, elle sera aussi inculpée pour complicité. Cette tentative quelque peu désespérée fonctionne et Charles Cullen avoue entre 30 et 40 victimes depuis 1988. C'est une première étape, mais les policiers pensent que la fourchette donnée par l'homme est très basse. Et surtout, malgré les aveux ainsi que les noms précis donnés par le tueur, il n'y a en réalité aucune preuve. Tous les décès auxquels il pourrait être lié ont tous été classés comme des morts naturelles. Finalement, face au risque de condamnation à mort qui plane au-dessus de cette affaire, Charles Cullen passe un accord le 29 avril 2004, lui permettant d'éviter la peine capitale à condition de plaider coupable et coopérer totalement, donnant le nombre exact de victimes accompagné de leur identité. Charles Cullen coopère comme prévu et se voit condamné à réaliser 18 peines d'emprisonnement à vie, bien que le nombre de victimes soit plus élevé, aux alentours de la centaine, sans pouvoir être plus précis, une quantité d'éléments n'ayant pas été transmis par les hôpitaux ou même détruits. Même si seuls 18 dossiers sont allés au bout et ont débouché sur une condamnation à l'encontre de Charles Cullen, ce dernier aurait en réalité tué entre 100 et 300 personnes selon certains de ses anciens collègues et ses procédés spécifiques. Les hôpitaux, ayant conservé le pied sur le frein tout au long de la procédure afin d'être impactés le moins possible, n'ont pas aidé et la vérité sur cette histoire et surtout le nombre de victimes ne sera malheureusement jamais connue. Mais voici l'un des tueurs en série américains les plus prolifiques ayant bénéficié, de façon ironique, de la protection d'un système ayant vocation à sauver des vies.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.